Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a un procès pendant 8 mois qui raconte ma vie, qui raconte mon histoire autant que je sois présent.
Bruno Poncé, victime de l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015 à Paris.
Et puis je parle aussi parce que moi j'ai des amis qui sont présents avec moi aujourd'hui et ou qui sont pas là et qui veulent pas parler, qui peuvent pas parler. Donc je parle aussi un peu pour eux. Je fais ça depuis 6 ans mais je vais continuer parce que je trouve que c'est important. Moi déjà je vous dis franchement, aujourd'hui c'est compliqué, mais bon c'est bien.
Puis là tout à l'heure, passe ce clip où on voit des gens qui chantent, qui dansent, qui... Et en fait tous ces gens-là, moi je les ai vus morts.
Jean-Luc Wertenschlag, voisin du bistrot La Belle Équipe, venu secourir des victimes après l'attentat.
Voilà, ça m'a retourné. Je suis parti en sanglots, j'ai rien compris. Mes yeux se sont fermés, j'ai le noir. Et je pleurais.
Le procès des attaques terroristes du 13 novembre 2015 s'est ouvert le 8 septembre 2021 devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. Il doit durer 9 mois et le mois d'octobre a été entièrement consacré à l'audition des témoignages des parties civiles. Les parties civiles, ce sont les victimes des attentats, des victimes indirectes des attaques, les proches, mais aussi les primos intervenants comme des gendarmes au Stade de France et les policiers au Bataclan. Environ 350 personnes sur 1900 parties civiles ont décidé de prendre la parole à ce procès. Soit 5 semaines d'audition à raison d'une quinzaine de personnes par jour. C'est inédit pour un procès. Dans cet épisode de Minute Papillon, deux journalistes de 20 minutes.
Caroline Politi, je suis journaliste en police-justice à 20 minutes.
Et Hélène Sergent, journaliste police-justice à 20 minutes également.
Elles vont expliquer leur travail sur cette parole des parties civiles. Quelle histoire, quels témoignages ont choisi de raconter dans ces articles? Quel est celui qu'on va écarter? Pourquoi? Comment en raconter et avec quel vocabulaire? Quelles sont les erreurs à éviter quand on rapporte la parole d'une victime? Et à quelle place doit-on se situer? Ce sont plusieurs des questions évoquées dans cet entretien. La première question, c'est comment on choisit de raconter un récit, une parole plutôt qu'une autre?
C'est une question qui est compliquée et dont on a beaucoup parlé toutes les deux, parce qu'on entend donc chaque jour 15-16 témoignages qui sont tous extrêmement forts et que dans notre exercice, on ne peut pas raconter tous ces témoignages tout simplement parce que sinon, nos articles, ils feraient 10 pages et que nous, il y a un principe de base dans le journalisme, c'est d'avoir un angle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on raconte quelque chose de spécifique au sein de toutes ces journées. Et du coup, il y a une forme parfois un peu de culpabilité de ne pas pouvoir donner autant de place à la parole de chacun. C'est notre travail de le faire et on peut justifier à chaque papier pourquoi on a choisi telle personne ou telle personne. Mais ça nous pose à nous deux, mais à tous nos confrères et consoeurs qui suivent ce process, c'est des vraies interrogations et c'est compliqué.
Il y a quand même une certitude qu'on avait dès le début, avant de commencer cette séquence, c'est qu'on voulait absolument assister et donner la parole ou retranscrire la parole des rescapés de chaque scène de crime. Parce que c'était il y a 6 ans, parce que dans l'esprit de beaucoup, beaucoup de Français, et parce qu'il y a eu un traitement médiatique important autour de l'attentat du Bataclan, le 13 novembre est encore toujours et souvent associé au Bataclan. L'idée, c'était quand même de pouvoir rappeler ce qui s'était passé devant les portes du Stade de France, des différents restaurants et terrasses qui avaient été visés, et puis évidemment ensuite du Bataclan. Il y avait aussi une volonté de suivre certaines personnes qu'on suivait depuis plusieurs années, qui avaient participé à la rédaction d'articles sur notamment la prise en charge de suivi des victimes au fil des ans et qu'on a voulu aussi entendre, pour aller au bout entre guillemets d'un cycle, entendre leurs récits, leurs témoignages. Ce qu'on s'est dit aussi, mais en réalité, ce qui se passe à l'audience est toujours différent par rapport à ce qui se passe devant une caméra ou dans le cadre d'une interview journalistique. On a essayé de donner la parole, ou en tout cas de diffuser la parole des victimes qui n'avaient jamais été interrogées auparavant, n'avaient jamais raconté leur histoire, de raconter un petit peu les citoyens anonymes qui avaient été touchés, voilà, qui n'avaient pas d'engagement dans les associations ou pas de représentation ou d'expression sur les réseaux sociaux et qui du coup, véritablement prenaient la parole pour la première fois pour raconter publiquement leur histoire. Ça, on a essayé aussi de oui, donner un peu de visibilité. Après, il y a un écueil aussi, je pense qu'on a tous rencontré dans le cadre de ce travail journalistique, se pose aussi la question, étant donné que initialement, de toute façon, c'est 350 personnes qui décident de prendre la parole et qui témoignent à l'audience, ce sera jamais représentatif des 1900 récits et des 1900 trajectoires de vie de victimes des attentats terroristes. Ce qui est compliqué, c'est ne pas tomber dans une forme d'idéalisation aussi de la victime, d'héroïsation de la victime, et de se dire, si je choisis ou si je mets en avant des récits, un certain type de récit en tout cas, quelle construction je transmets au grand public de l'image de victime ?
On a eu des témoignages de victimes qui ont un parcours de reconstruction où on sent que assez rapidement, ils ont réussi à reprendre... par la force de la volonté, en expliquant malgré tout avoir eu des rechutes, mais avancer dans leur parcours de vie. Puis d'autres qui disent qui respirent encore, mais qui sont morts le 13 novembre, du fait du traumatisme engendré par ces attentats. Et du coup, il faut raconter également ces victimes-là.
Comment vous situez-vous en tant que journaliste dans ce procès face aux paroles de parties civiles qui racontent parfois l'indicible ?
Il y a une chose assez simple qu'il faut vraiment garder en tête, et je pense que c'est, on se le rappelle très très souvent à l'audience, c'est que c'est pas nous les victimes de guerre. Nous, on est journalistes, on est là pour entendre, pour écouter. C'est pas toujours évident, mais c'est pas nous qui avons vécu ce traumatisme. Donc déjà, ça pose un cadre et une base. Pour essayer d'éviter le piège de l'identification et où du coup on se mettrait à ressentir dans notre chair les souffrances qui sont exprimées à la barre. C'est voilà, nous on est là pour retranscrire leurs paroles, pour faire notre travail. C'est pas toujours évident. Il y a évidemment des choses, des récits, des trajectoires, des deuils qui font parfois davantage écho à certaines personnes parce que, pour plein de raisons personnelles, humaines, on va se sentir davantage touché par ce qui est dit.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on écoute ces récits, c'est une écoute active. On réfléchit également au papier qu'on va faire ensuite, comment ces témoignages, on va pouvoir les transformer en article, donc c'est une forme de filtre. Enfin, cet écran d'ordinateur, c'est une forme forcément de... Le terme mise à distance n'est pas juste, mais en tout cas, ça permet de remettre chaque personne à sa place. Après, comme disait Hélène, oui, enfin, entendre 15, 16 témoignages de personnes qui ont vécu l'indicible, enfin, qui ont vécu des scènes de guerre, des traumatismes, on n'en ressort pas indemne, et ça... Tous les journalistes qui couvrent ce procès le diront. Ce qu'on disait aujourd'hui, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Autant de victimes, autant de témoignages de victimes, des témoignages extrêmement durs. Et oui, certains jours, il y a des histoires qui nous touchent particulièrement et on ne reste pas insensible, c'est pas possible.
Il y a quelque chose que je voulais juste ajouter, qui est, je trouve qu'on mesure à l'audience, c'est qu'on se rend compte qu'en 6 ans, et on le doit beaucoup d'ailleurs aux parties civiles, qui nous ont épargnés collectivement en fait de la réalité de ce qu'ont été les attentats. Une des victimes me l'a dit d'ailleurs en préparant son témoignage. Quand je vais arriver à la barre, quand je vais me retrouver face à la cour, ce que j'ai pas osé dire. Là, je vais le dire en fait. J'ai besoin de le dire. J'ai besoin de dire par quoi je suis passée, ce qui s'est passé. Et elles le font, et c'est parfois d'une violence inouïe, avec des termes très crus, où on se pose d'ailleurs la question nous-mêmes de comment je retranscris ça ? Est-ce que j'ai besoin de le retranscrire ? Est-ce que je le tweete ?
Par exemple, beaucoup de parties civiles du Bataclan, 12 minutes après le début de l'attaque, un des policiers de la BAC a tué un des 3 terroristes qui, en tombant, sa ceinture a explosé. Et donc ça, on le savait tous. Ce qu'on ne savait pas, c'est que tous racontent qu'ils ont à un moment, ils ont reçu plein de confettis, se sont demandé ce que c'était. Et c'était des confettis de chair, c'était des morceaux de ce terroriste qui venait de se faire exploser et qu'ils en ont eu partout, dans les cheveux, dans les lacets, dans les... Là, je le raconte, mais tous le racontent avec des mots encore plus durs. Et c'est enfin, on a beau savoir ce qui s'est passé, tous ces détails-là, mais ils sont importants parce qu'ils racontent non seulement la violence de la scène, mais ensuite la grande difficulté de la reconstruction. C'était hier au palais de justice, et il y avait une dame qui disait « Je me suis rendu compte que j'avais ces morceaux de chair donc dans mes lacets. Ça veut dire que j'ai été voir mon mari qui était grièvement blessé à l'hôpital avec un bout du terroriste. Je suis allée chez mes parents avec ce terroriste sur moi. » C'est tout ça qui se raconte, et c'est toute cette violence crues qu'ils ont subies qu'on doit raconter. Et à un moment, comment raconter ça? Comment la raconter pour qu'elle devienne audible et faire comprendre ce que ces personnes ont vécu, l'horreur absolue, tout en étant pas dans l'indécence, pas dans le voyeurisme. C'est parfois, on a le sentiment de marcher sur un fil.
Après, il y a évidemment des moments qui sont compliqués. Nous, avec Caroline, je pense que ça nous préserve, entre guillemets, d'une certaine façon aussi, c'est qu'on n'est pas à l'audience tous les jours. Donc, on n'a pas entendu l'intégralité des témoignages. Ce qui permet de sortir, entre guillemets, de ces récits-là de quelques journées par semaine. En revanche, il y a certains de nos confrères qui y sont tous les jours. Ça peut représenter effectivement, moralement, une charge qui n'est pas toujours évidente à gérer. Et ce qui a été mis à disposition des parties civiles, l'aide psychologique gérée par Paris Aide aux Victimes, qui est une association qui intervient auprès des victimes d'accidents collectifs, d'attentats, est aussi accessible aux magistrats, aux avocats et aux journalistes qui le souhaitent et qui en ont besoin.
Et après, comme tout le monde, je pense qu'il y a plusieurs fois où aller avec ses collègues boire un coup en sortant de l'audience, ça fait du bien. Les avocats font de même, les parties civiles font de même. Enfin, je pense que certains bars autour du palais de justice doivent bien fonctionner en ce moment, parce que oui, il y a des fois où on peut avoir besoin de ce sas avant de rentrer chez soi. Alors parfois, le retour chez soi permet de passer complètement à autre chose et de rentrer dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qu'on a entendu, mais ça veut dire qu'à un moment, on est rattrapé par un quotidien et que ben il faut donner le bain, etc. Et que ben, forcément, ça nous remet dans un instantané. Mais c'est vrai que parfois, il y a également certaines journées particulièrement dures où globalement, tous, à ce moment-là, on se dit que ce serait quand même bien d'aller boire un verre et passer une heure à échanger ou à parler d'autre chose sur ça.
Merci à Caroline Politi et Hélène Sergent pour leurs témoignages. Tous leurs articles, leurs comptes rendus d'audience et leurs vidéos sont à retrouver sur 20minutes.fr. Minute Papillon, c'est un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming, dont Spotify, Apple Podcasts et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à nous évaluer sur Apple Podcasts. Gardons le contact enfin via audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.